Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Pascal Caron, coprésidente de l'ESCDD, l'espace social et culturel du Divois, ainsi que Charlotte Fellman, salariée de cette même structure. Elles sont venues à l'occasion du renouvellement du projet de l'ESCDD en vue d'obtenir l'agrément de la CAF, de cette structure et de ses actualités, de ses projets. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Avant toute chose, est-ce que vous pourriez rappeler les fonctions, les missions de l'ESCDD sur le territoire du Divois et on a bien dit du Divois?
Voilà. Les principales missions d'un centre social, quand on parle d'un agrément CAF, en fait, ça permet d'avoir des financements de la Caisse d'allocation familiale, mais il faut répondre à un certain nombre de critères. Et dans les missions des centres sociaux en France, c'est l'animation de territoire, c'est effectivement organiser des activités socio-culturelles, c'est proposer de la formation, c'est proposer à des collectifs d'habitants d'animer un sujet particulier. Donc, c'est une. On pense souvent activités socio-culturelles, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est animer la parentalité, la famille, les choses comme ça. Donc c'est vraiment un premier rôle d'animation du territoire et l'espace social et culturel du Divois porte bien son nom puisque c'est pas juste l'animation du territoire de Die, mais de l'ensemble du Divois.
Plus concrètement, alors, quelles sont vos activités alors? Si on devait les lister un tantinet.
Oh, à la lister. Alors, disons que, bon, alors, on a, ce qui est le plus connu, effectivement, sont toutes les activités socio-culturelles. Donc là, ça passe partout les arts, l'apprentissage des langues, enfin, la danse. Enfin, Charlotte, tu pourras compléter si j'en oublie. Mais enfin, là, il y a toute une liste assez importante. Mais c'est aussi l'animation d'un espace jeune pour les jeunes et les ados, donc avec des locaux bien particuliers. C'est l'animation de ce qu'on appelle le collectif famille, donc animation de groupes de parents, de jeunes enfants, d'ados. C'est l'animation d'un café de l'emploi, ce qui tourne autour des questions de l'emploi, l'animation de questions autour de la précarité. L'espace social était connu un peu dans le passé comme animateur de tout ce qui s'est tramé autour de l'hôpital de Die, pour la sauvegarde de l'hôpital de Die. Et c'est l'espace social qui a été un peu nommé comme l'animateur de ça. On a aussi animé l'an dernier beaucoup de rencontres sur la réforme des rythmes scolaires. Donc notre rôle n'est pas de prendre parti mais simplement d'animer les réunions. Donc on a un rôle d'animation très important. Alors ça fait beaucoup de fonctions en même temps, j'en ai peut-être oublié, non? Vas-y.
Après il y a tout un travail autour de l'accueil, de l'accès aux droits, pour répondre à des premières demandes et relayer et orienter vers les structures adéquates face aux questionnements. Il y a un travail autour de la précarité, donc toutes les formes de précarité, hein, aussi bien au niveau du logement que de la parentalité, que de l'activité, etc., de l'emploi. Il y a une dimension, tout ce qui est de l'accompagnement de collectifs d'habitants. Encore une fois, comme l'a dit Pascal, c'est l'idée d'être animateur, non pas de prendre parti, mais bien d'être technicien, on va dire, apporter une technicité pour pouvoir aller vers de l'action collective, de la réflexion collective via des outils d'animation. Dernier secteur aussi, c'est le centre de loisirs. Il y a un centre de loisirs à l'espace social.
Et si je ne m'abuse, vous aidez aussi certaines associations qui n'ont pas de locaux. Vous accueillez par exemple les collectifs chez vous, non?
Oui, alors on sert beaucoup de domiciliation pour beaucoup d'associations du Divois. Donc je ne sais plus combien il y en a qui sont domiciliés à l'espace social la plupart du temps parce qu'elles n'ont pas de locaux propres ou des difficultés à se domicilier. Encore faut-il qu'elles soient un peu proches quand même de notre mission. Et effectivement, on abrite aussi des groupes qui ne sont pas constitués en association, comme les collectifs, qui est un groupe donc de femmes qui travaille sur le droit des femmes, en particulier sur les violences faites aux femmes. Mais on a aussi accueilli le lieu d'accueil enfants-parents, qui est un lieu aussi où des jeunes mamans peuvent venir avec leurs enfants et échanger donc sur leurs problématiques de jeunes mamans. Donc en fait, souvent dans l'espace social naissent des collectifs qui peuvent ou pas se transformer ensuite en association, mais qui peuvent rester aussi des collectifs abrités par l'espace social. Donc c'est vraiment ça, là on est vraiment bien dans notre rôle d'animation.
Et tout ça existe aussi grâce à l'animation d'un pôle ressources, du coup, qui est une salle et un espace entièrement dédié à la vie associative du Divois. C'est aussi bien matériel, enfin, une salle de réunion qu'on met à disposition, que aussi la présence d'agents de développement qui sont là pour donner un coup de main en fonction des besoins. Donc, ça peut être aussi bien pour structurer un projet pour aller vers une association qu'une association déjà créée qui a des questionnements autour de son projet, de développement, de montage de subventions, de questionnements autour de contrats. voire de la comptabilité aussi, qui sont aussi des services qui sont proposés à l'espace social, donc sur apporter encore une fois de la technicité des compétences et pouvoir mutualiser ces compétences autour de ce pôle ressources.
Pour assurer toutes ces missions, vous disposez d'un personnel nombreux, compétent et bien rémunéré?
Nombreux, compétents, oui, bien rémunérés, ben j'espère pour eux, enfin, j'espère qu'ils ne sont pas, parce qu'on relève de la convention collective des centres sociaux, donc qui est quand même, je pense, bien structurée. Alors, je crois qu'on a entre 16 et 17 personnes, mais pas temps plein, donc on a un petit peu moins de 10 équivalents temps plein, on frôle les 10 personnes, enfin les 10 équivalents temps plein, qui se répartissent sur toutes ces activités, effectivement.
Et alors, sans langue de bois aucune, comment évalueriez-vous la forme de l'ESCDD? Ça se porte bien, cette structure?
Oui, elle se porte bien, elle se porte même un peu mieux qu'il y a 2-3 ans où il y a eu quelques petits problèmes financiers. Enfin, bon, ceci dit, l'espace social, il y a des réserves, hein, des fonds propres assez importants, et c'est d'ailleurs exigé par les CAF. Mais il y a eu quelques années un petit peu de déficit structurel qu'on a réussi à remettre à flot depuis 2-3 ans en allant chercher aussi des subventions diversifiées un peu. On a mis en place des formations justement pour les associations du DIWA sur la gouvernance, sur qu'est-ce que ça veut dire être une association, les responsabilités des administrateurs, des choses qu'on trouve, mais des fois il faut aller à Valence ou un peu plus loin. Et surtout, c'est nous-mêmes comme association, bah, c'est vrai que le vivant au quotidien, on est à même aussi de conseiller les autres sur ce qu'il faut vivre dans une association, parce que on voit beaucoup d'associations qui se montent, on voit beaucoup de gens qui partent avec beaucoup d'enthousiasme, puis qui découvrent tout d'un coup que le rôle d'administrateur n'est pas si simple que ça, et que ça fait du bien de venir se confronter avec d'autres et puis avoir quelques réponses aux questions qu'on se pose au quotidien sur qu'est-ce que ça veut dire de faire vivre une association, en fait.
Alors, est-ce que vous feriez mentir cordonnier plume à chaussée? Alors, vous appliquez les propres conseils que vous donnez aux associations à vous-même, et donc vous êtes particulièrement bien géré?
Sûrement, non. Mais je pense qu'on a, comme tout le monde, eh ben, on ne fait pas faire aux autres les erreurs qu'on a faites, mais on en fait d'autres sûrement. Mais je pense que ça, c'est la vie. Ce qui est important, je pense que c'est qu'il y a une bonne ambiance. D'abord, on a une présidence, une coprésidence, ça veut dire collégiale. Donc déjà, on a un parti pris de la participation et de la collégialité. Il y a des réunions d'équipe, donc les salariés de l'espace social savent qu'ils peuvent toujours rencontrer les membres du bureau. Et donc, je pense que la Charlotte, je la laisser peut-être répondre à ma place. Mais enfin, moi, de mon point de vue comme coprésidente, je pense qu'il y a une bonne fluidité de l'information et ça permet donc de bien se rencontrer, quoi.
Oui, puis après, juste un tout petit peu d'humilité fait que en fait, on ne conseille, ce qu'on fait, c'est donner des conseils. Aucunement, on prêche une manière de gérer une gouvernance dans une association, et que du coup, de la même manière, à l'intérieur, on vit une expérimentation aussi sociale, organisationnelle, etc. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas bien, on réajuste, et c'est aussi notre posture et ce qu'on veut transmettre aux associations, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, à chacun de trouver son équilibre. Et du coup, c'est vrai que là, il y a le bureau organisé de manière collégiale, c'est une expérimentation avec plein de choses qui fonctionnent, avec plein de choses qui demandent encore à pouvoir être travaillées. Enfin voilà, c'est la vie d'une association qui, en ce moment, oui, il me semble, est dans une période où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'expérimentation, de volonté d'aller de faire des choses, en fait. Et du coup, ça, c'est aussi toutes les différentes ressources humaines qui participent à cette structure qui impulse des choses. Après, reste, je dirais, pour compléter un peu la question que tu as posée autour de la santé, il y a de la structure, il y a aussi tout un travail à faire sur visibiliser toutes ces actions-là qui, en fait, beaucoup de personnes avec qui on discute de l'espace social en connaissent. Les activités socioculturelles et le centre de loisirs.
Alors, c'est pas faute à la radio d'avoir essayé de faire une émission spéciale ESCDD à Air du Bois. Mais ça, je vous laisse réfléchir
c'est
encore.
C'est pour ça que nous sommes là. Oui, mais nous avons répondu à l'appel.
Oui, mais c'est une émission ponctuelle. C'eût été tellement parfait que, parce que ça, c'est un classique dans beaucoup de radios, que des associations, justement, qui travaillent dans l'animation de territoire se saisissent de cet outil pour promouvoir et visibiliser, c'est le terme que vous avez employé, leurs propres actions. Enfin, vous êtes tellement libre.
Non, mais alors là, on va faire notre mea culpa. Je pense qu'effectivement, faut dire qu'une année de renouvellement de projet social, c'est quelque chose de très 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 important et c'est très énergivore, je dirais, en temps, parce que un projet social, c'est un document de 80 à 90 pages qu'il faut rendre. C'est pas juste. C'est un diagnostic des 4 ans passés et c'est des orientations pour les années futures. Et ça mobilise énormément. Et Charlotte pourra en parler puisque c'est elle qui a été un peu chargée de toute l'enquête consentisante qui a amené à écrire ce projet social. Et je veux dire que toute l'année, l'équipe et puis le bureau et les administrateurs, on a été très, très mobilisés. On n'a pas été forcément très bons en communication parce que ça nous a demandé énormément de temps. Parce que ça veut dire aussi faire des comités de concertation avec les partenaires pour valider toutes les étapes du projet. Donc, des soirées avec les maires du DIWA, par exemple, avec la communauté de communes, avec les représentants de la CAF, du Conseil général. Enfin, c'est un gros, gros travail. Heureusement qu'on fait ça que tous les 4 ans. Et encore, je trouverais que ça serait bien si c'était tous les 5 ou 6 ans parce que ça revient très vite. Et c'est un très très gros travail à accomplir. Alors ça laisse peu de place, on a beaucoup de bénévoles, mais comme toujours ces bénévoles là sont bénévoles aussi dans d'autres structures et à un moment donné tout le monde s'épuise un petit peu à la tâche. Mais effectivement ça fait partie des axes qu'on veut travailler dans, si je me souviens bien, dans l'écriture de notre projet. Il y a un axe communication qu'on veut renforcer quand même. Donc c'est partie remise, on va se reprendre comme on dit.
Alors, tous les 4 ans, vous devez remettre le pain sur la planche et pondre un projet en passant par un diagnostic et évaluer des actions. On commence par quoi ? Le diagnostic ou les priorités futures ?
Bah, plutôt le diagnostic, ça va permettre d'enchaîner. Donc là, je vais laisser Charlotte parce que c'est elle qui a quand même été bien la responsable de l'enquête en particulier et du traitement.
Et un diagnostic de quoi d'ailleurs ?
C'est un diagnostic de territoire sur les enjeux de vie quotidienne des habitants. Donc, quels sont... pour utiliser une image, quelles sont leurs épines dans le pied ou les choses qui font que la vie quotidienne est chouette dans le DIWA, sachant que cette matière-là nous permet de questionner aussi l'évaluation du coup du projet social précédent. Donc voilà, est-ce qu'on répond ou pas aux besoins du territoire et du coup pour pouvoir adapter nos objectifs pour les 5 ans à venir. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas du tout au tout, puis des petites graines qu'on peut trouver à l'intérieur du diagnostic. Donc voilà, c'était des enquêtes qu'on a menées pendant 4 ou 5 mois sur les 4 cantons, puisque du coup, on est le centre social des 4 cantons du pays d'Iwa. On a réalisé 162 enquêtes auprès du coup de 162 habitants différents. Il y a eu 27 enquêteurs et enquêtrices différents, donc aussi bien des salariés que des bénévoles, des accordeurs aussi, donc de l'accorderie du d'Iwa qui sont venus aussi mettre la main à la pâte. Et voilà, du coup, via des entretiens de une heure et demie, voire un peu plus, on questionnait un peu savoir quels sont les enjeux de vie quotidienne autour de questionnements autour du logement, de l'emploi, de l'accès aux droits, de la mobilité, de l'activité,
de l'enfance, des familles, transport, enfin bon.
Un peu tout ce qui fait notre quotidien, on va dire. Et du coup, enquête conscientisante, c'est un terme un peu pompeux pour voilà essayer aussi de mettre au travail des idées d'action pour améliorer les choses. À chaque fois, essayer de dire, bon, bah voilà, il y a un problème au niveau du logement, bah, ce serait quoi les idées que vous auriez pour améliorer les choses, vous ? Ça ne veut pas dire que les personnes sont entièrement responsables de l'amélioration de leur quotidien, c'est pas ça, mais c'est se mettre un peu, mettre la créativité et l'idée de pouvoir agir aussi sur son quotidien au travail via cette enquête.
Et alors justement, qu'en est-il de ce diagnostic ? Est-ce que les gens sont heureux dans le DIWA ? Ou alors, quels sont les principaux enseignements de ce diagnostic ?
Alors par exemple, deux chiffres qu'on a aimé confronter, c'est que je crois que c'est autour de entre 95 et 98% des personnes sont satisfaits de leur vie quotidienne dans le DIWA. Si on leur pose une question un peu globale, est-ce qu'on est plutôt heureux dans le DIWA ? Et en même temps, c'est... si je me trompe pas, c'est oui, un tout petit peu moins de 50%, 46% des personnes qui se déclarent vivre dans une situation économique et ou sociale précaire, par exemple. C'est deux chiffres que nous, en tout cas, par rapport à ce qu'on travaille à l'espace social, nous intéressent. Bon, après, c'est pas des portes ouvertes, c'est un peu des choses que tout le monde sait. Voilà, le logement, c'est compliqué sur le territoire. La mobilité, c'est des choses qui sont compliquées aussi. L'emploi, c'est très compliqué. Les modes de garde, ça dépend vraiment si on a un réseau, mais sinon, ça peut être aussi rapidement compliqué. Enfin, voilà, il y a tout plein d'enjeux qui correspondent au milieu rural. Hein, on va pas se mentir non plus. C'est pas un micro-territoire qui sort complètement des logiques du reste de la France. Après, qu'à ses spécificités, au niveau des richesses des personnes qui vivent ici et qui apportent en fait leurs idées et leurs envies par rapport au territoire. Et du coup, après, nous, la matière qu'on a pu récupérer, notamment autour des idées d'action, nous permet aussi aujourd'hui d'impliquer des habitants dans la recherche de certaines solutions, donc des choses qui sont revenues régulièrement, essayer de les mettre au travail ensemble pour voir si on peut s'organiser là-dessus. Ou de transmettre à nos partenaires, si ce n'est pas un domaine sur lequel on travaille. Voilà, il y a telles idées, il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'il y ait des choses qui soient faites. Et voilà, donc c'est aussi bien quelque chose pour nous que aussi pour transmettre aux partenaires.
Oui, ce qui est ressorti aussi, ce qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est un désir de participation plus accru des habitants du territoire. En disant, puis bon, je pense que c'est un sentiment général, j'allais dire, au niveau de la France, une espèce de désaffection vis-à-vis des pouvoirs un peu plus politiques et une envie, comme habitants, de reprendre plus en main leur propre destinée et d'agir concrètement sur les solutions aux problèmes qui les concernent. Et ça, ça traverse à peu près toutes les questions, avec l'envie de dire, arrêtons d'attendre des autres et peut-être essayons de nous mobiliser. Alors, avec effectivement, les travers ou les limites de l'exercice, parce que quand on parle de la problématique de l'emploi sur le Diois, on le sait qu'on n'a pas des grandes usines, on n'a pas, quand on a enlevé la viticulture et certains, on n'a pas tant d'emplois que ça, et c'est beaucoup de l'emploi, en fait, que les gens créent leur propre emploi, donc beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de travailleurs autonomes et tout ça. Mais quand même, l'envie de pouvoir le partager, donc c'est pour ça qu'on a mis en place un café de l'emploi, par exemple, à l'espace social. Donc, on est bien conscient qu'on ne peut pas directement agir sur certaines causes parce qu'on n'en a pas les pouvoirs, mais on peut permettre aux habitants de s'organiser, et c'est là que notre rôle d'animation prend toute sa place. Un collectif d'habitants qui va nous dire, cette fois-ci, il y a une problématique sur des logements, par exemple, Adi, directement, on sait que le centre-ville, il y aurait besoin de rénovation. Il y a un groupe d'habitants qui voudrait dire, nous, on prend un peu ça en main, on essaye de voir avec les partenaires. Le rôle de l'espace social, ça va être d'animer ce groupe d'habitants, de leur permettre de s'exprimer, de faire venir leur créativité. Ça ne va pas être directement d'aller voir des partenaires en disant qu'il faut agir sur l'emploi. Ce n'est pas notre rôle, ça. On ne va pas pouvoir prendre toutes les problématiques en même temps.
Alors, je suis tellement d'accord, mais allez demander ce que pensent un certain nombre d'hommes politiques des comités locaux de développement et vous verrez bien. Mais ceci dit, on ne va pas continuer à spéculer. Juste une petite question qui me traverse l'esprit sur cette enquête, parce que c'est une enquête qui s'est adressée à des individus. Or, vous vous adressez à des associations. Il n'y avait pas de volet qui aurait pu s'adresser aux besoins, à la vie des structures, quoi.
Il y a eu quelques rencontres qui ont été faites d'associations. Pour être honnête, on n'en a pas fait autant qu'on aurait voulu pour pouvoir justement compléter ce diagnostic au niveau des besoins en termes d'associations. Et surtout les associations qu'on a pu rencontrer n'ont pas été forcément des associations dites, mais plutôt des autres cantons qu'on touche moins, qu'on connaît moins, quand bien même les associations dites ne connaissent pas le pôle ressources de l'espace social et cette ressource matérielle et humaine qui peut être là pour les accompagner. Autant si on va à la Motte, le SCDD n'est même pas connu en tant que structure. Enfin, j'en rajoute un peu, hein, mais il y a voilà. Donc voilà, on a rencontré quelques associations sur le canton de la Motte, de Châtillon et de Luc. On n'a pas rencontré tout le monde.
Parce que si j'ai bien compris, bien que ça soit un exercice imposé par la CAF et qu'il soit lourd, c'est quand même riche d'enseignements. Et que vous pouvez utiliser d'une façon ou d'une autre dans
Ce que je vais peut-être reprendre, c'est parce que la mission principale d'un centre social, c'est de s'adresser aux habitants et pas aux associations. Donc on est bien en direct avec les habitants. C'est pour ça que, oui, on a le pôle ressources et puis il semble important pour nous. Mais on a 650 adhérents à l'espace social, répartis un peu sur l'ensemble des cantons. Et en fait, quand on parle de l'animation de groupes de parents, de cafés de l'emploi, c'est bien des individus qu'on s'adresse. Donc j'allais dire que 90%, mais 90% de notre mission est envers des individus qu'il faut organiser collectivement justement pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions à leurs problèmes.
En passant peut-être à travers des associations.
Alors après oui, c'est pour ça qu'on a des petits déj partenaires toutes les 6 semaines à peu près avec l'ensemble des acteurs du territoire pour un peu partager entre nous tout ce qu'on entend les uns des autres, des besoins, des attentes des habitants d'un territoire, et chaque association va reprendre après sa spécificité. Mais je dirais que l'espace social, c'est souvent un peu la porte d'entrée, et après on réfère faire de nouveau, parce qu'on peut pas, évidemment, d'abord c'est pas notre rôle de tout faire à la place de ce qui existe, mais on est un peu la porte d'entrée à l'accueil. Les gens arrivent, individus ou associations, avec une question, à nous de répondre, soit en direct quand on le peut, soit de renvoyer la personne vers la bonne structure. Voilà. Mais on est quand même un centre social, ça s'adresse d'abord aux habitants, donc aux individus, enfin aux familles, quoi, mettons.
Alors, tu as commencé, Charlotte, à en parler un petit peu tout à l'heure, d'utiliser les fruits de ce diagnostic pour en tirer vos actions futures. Est-ce que d'un diagnostic à l'autre, tous les 4 ans, votre projet évolue grâce à ces diagnostics ?
Oui, le projet évolue en particulier par des questions, on va dire, plus vagues sur une priorisation des enjeux de vie quotidienne. Et du coup, à partir de là, nous, on priorise aussi nos actions. Par exemple, quand sur le dernier projet social, Il y a un axe de travail qui a été formulé, emploi, précarité, activité. Ça, c'était le résultat de l'enquête de territoire, de se rendre compte que c'est un enjeu tellement fort et tellement prégnant dans la vie quotidienne que bah, l'espace social, quand bien même ne soit pas un acteur de l'emploi au niveau national, les centres sociaux ne sont pas un acteur de l'emploi, et ben, si on veut agir sur le territoire, on ne peut pas se passer de tirer des leviers, accompagner des habitants qui veulent faire des choses ensemble autour de ces questions-là. Du coup, par exemple, cet axe-là va être un axe qui va être maintenu, probablement redéfini dans les termes, mais voilà, ça reste quelque chose qui est très fort... pour les habitants, un besoin réel, une épine dans le pied très forte. Il y a aussi toute la dimension autour de la parentalité, enfant-jeunesse-parentalité, qui est un axe qui reste aussi toujours aussi pertinent et qui ressort. Donc, sur des grands objectifs, on va dire, cette priorisation des habitants nous permet de nous déterminer des axes de travail. Après, si jamais il y a des idées d'action, par exemple, qui reviennent de manière très récurrente dans les entretiens, notre travail va être de mettre ces personnes en lien, qui ont ces mêmes idées et ces mêmes envies pour le territoire, et pour pouvoir animer après autour de ça, quand bien même ce ne soit pas sur un enjeu prioritaire. Voilà, après, aujourd'hui, ce qui, par exemple, est revenu très fort dans l'enquête de territoire et qui, jusqu'ici, n'est pas un axe de travail de l'espace social, c'est le logement, par exemple. Après, qu'est-ce que l'espace social peut faire sur le logement ? Bon. Bah, on va voir, on va y réfléchir avec les habitants, avec les administrateurs, avec le bureau, enfin, mettre un peu tout le monde autour de la table, les partenaires, savoir ce qu'on peut faire là-dessus. Mais bon, comme sur tous les axes, c'est que par partenariat et qu'à partir du moment où les habitants ont envie de se mobiliser pour quelque chose, que l'espace social pourra intervenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas omnipotent, on ne va pas agir sur tout. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses à faire que l'espace social va le faire. L'espace social va le faire à partir du moment où il y a d'autres forces vives qui se mettent en mouvement, sur pas mal de thématiques en tout cas.
Oui, bah, je crois que c'est ça la mission principale, c'est d'être vraiment à l'écoute des habitants. Donc, c'est pas à nous de définir ce qui nous semble bon pour les habitants, mais c'est à d'écouter les habitants et de les aider à formuler leurs besoins, leurs attentes et les animer dans des collectifs pour quand ils vont s'approprier un problème bien particulier. Alors, c'est pas toujours confortable, j'allais dire, comme position, parce que à la fois, il faut être en attente et très réactif. Mais on peut pas décider que si on n'avait pas fait cette enquête, on aurait pu se dire, ben nous, il nous semble que, je sais pas, c'est les transports qui sont les plus importants sur le territoire et qu'il faut mobiliser les habitants autour. Mais si c'est pas leur première question, on mobilisera rien du tout et il se passera rien. Quand on entend effectivement que le logement, l'emploi, alors effectivement, comme dit Charlotte, on sait que c'est les préoccupations quotidiennes, que l'emploi, c'est une préoccupation plus en termes de précarité économique. Les gens disent, nous, à créer leur emploi, on voit bien, il y a quand même une population particulière sur le Diwa avec beaucoup de gens qui viennent et qui créent leur emploi. Créer leur emploi, ça veut dire avoir des revenus moindres et après, c'est tout ce que ça entraîne. C'est des revenus moindres. Est-ce que du coup, il y a un accès au logement quand même, à des logements qui soient quand même d'une qualité quand même correcte ou des choses comme ça. Et en fait, tout notre travail, nous, c'est pas de dire on va pas se substituer à Pôle emploi ou à tout ce qui existe déjà. C'est vraiment pas notre travail. Par contre, c'est d'être plutôt là où il y a des trous, j'allais dire un petit peu. Là. Si on imagine un peu un filet, bah, il y a des trous dans le filet. Et là, notre place, c'est d'être là et puis de dire, bon, quand les gens tombent dans le trou, comment on peut les aider à remailler, refaire des mailles dans ce filet dans lequel ils se retrouvent pas. Et à l'accueil, je pense que c'est souvent ce qu'on entend, hein, c'est des gens qui arrivent en disant, bon, ben oui, je sais bien qu'il y a des structures qui sont là pour m'aider, mais quand je pose la question, j'ai pas la réponse, donc je viens la trouver un peu à l'espace social, quoi.
Et alors, vous avez parlé de 650 adhérents, oui. C'est des adhérents qui, concrètement, ont fait appel une fois ou une autre à vos services dans l'année.
Non, il y a beaucoup d'adhérents qui sont dans les activités socioculturelles et puis après il y a tous les collectifs de gens qui sont les collectifs ou les groupes comme ça qui sont des adhérents permanents, quoi, je veux dire. Mais c'est quand on dit 600, enfin je sais plus 650 d'ailleurs, j'ai pas regardé le dernier chiffre. Enfin c'est à peu près tous ceux qui d'une manière ou d'une autre gravitent à l'espace social par telle ou telle porte, par l'espace jeune, par le centre de loisirs, par les groupes de parents, par le café de l'emploi, par les activités. Enfin bon voilà, il y a tellement d'espace. Tellement de portes par lesquelles on peut rentrer à l'espace social que c'est tous ces gens-là qui sont adhérents de l'espace social.
Alors, tout à l'heure, il a été question que le SCDD était à peine connu à La Motte-Chalancon. c'est une vraie problématique. Hein. Comment faites-vous pour être efficace et reconnu là-bas et même demandé, puisque je crois que la crête de Solor nous sépare?
Alors, c'est un travail de longue haleine dans le sens où c'est pas quelque chose qui se décrète et qui se met en place. je crois que c'est un questionnement qui taraude depuis assez longtemps l'espace social. Un outil qui a été créé du coup il y a une année maintenant, c'est la Carambule. C'est un centre social itinérant, en toute humilité encore une fois. Hein, c'est un camion aménagé et voilà, qui se déplace autant que faire se peut sur les différents territoires pour proposer ce qui est proposé à l'espace social, pouvoir le proposer hors les murs. Donc des ateliers, notamment en ce moment, il y a un atelier tous les 15 jours, un atelier parent-enfant autour de la mobilité des petits-enfants. Donc voilà, et qui se déplace tous les 15 jours dans une ville différente, un village différent du territoire. Ça a été aussi, quand on a fait les enquêtes, on allait toutes les semaines ou toutes les deux semaines se poser sur un marché. Donc marché Châtillon, Luc, Saint-Nazaire-le-Désert, La Motte-Chalancon, où on allait du coup à la rencontre des habitants, leur poser ces mêmes questions qu'on a posées pendant l'enquête, en raccourci bien sûr, on ne demandait pas une heure et demie d'entretien sur le marché, avec le même support. Voilà, c'est quoi pour vous vos enjeux de vie quotidienne à vous aussi? Et voilà, et via après des rendez-vous aussi avec des associations, rencontrer les élus naturellement pour faire connaître un peu à différents niveaux l'espace social. Et c'est des petites graines qui se plantent petit à petit, qui parfois ne germent pas, et certaines germent et font qu'on peut être petit à petit reconnu sur un domaine ou sur un autre. À court terme, je ne crois pas que l'espace social pourrait être reconnu sur l'ensemble de son action, sur l'ensemble des cantons, l'ensemble des villages. C'est voilà, nous on repère des enjeux en discutant avec les habitants, et du coup on va peut-être, il y a un secteur en particulier qui va aller travailler sur un canton. Je pense actuellement à La Motte, par exemple, l'espace jeune travaille à La Motte très régulièrement autour de la revitalisation d'un foyer de jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été repéré, discuté avec les habitants, discuté avec les élus. L'espace jeune peut proposer des choses en accompagnement là-bas. Et du coup, il est parti à La Motte. Enfin, il part régulièrement à La Motte pour poursuivre ce dossier.
Peut-être travailleriez-vous avec des associations relais qui sont passées justement à la Luce, la Croix-Haute ou la Motte-Chalancon, peut-être, je ne sais pas.
C'est l'objectif, avec des associations relais, avec des habitants relais aussi, repérer des personnes qui sont de près ou de loin intéressées par l'espace social, et du coup permettraient aussi d'être des grandes oreilles sur le territoire pour pouvoir relayer des enjeux. Et effectivement, des associations relais de la même manière. Une veille sociale de territoire, ce qu'on appelle, pour dire avec des gros mots, c'est ces grandes oreilles qui permettent à un moment de repérer un enjeu, le mettre au travail pour voir si un collectif peut émerger de ça, pour réfléchir, voire pour mettre en place des actions, voire dans un idéal complet, trouver des solutions pérennes à un problème donné.
Vous vitupériez tout à l'heure sur le fait qu'il faille refaire cette enquête tous les 4 ans, mais en fait, c'est peut-être beaucoup de travail, mais ça a l'air d'être utile en fait.
Non, en fait, c'est ça, oui. Enfin, quand je disais, c'est parce que c'est lourd, effectivement, comme travail, mais c'est extrêmement enrichissant parce que ça permet de se reposer les bonnes questions, de re-questionner ce qu'on fait, parce que c'est vrai que je crois que n'importe quelle structure, on rentre vite dans une espèce de routine. Ça roule et puis on continue comme ça. Et comme la mission quand même première d'un centre social, c'est l'animation de territoire et l'écoute des habitants, c'est bien quand même d'aller les questionner de temps en temps pour vérifier si voilà. Donc effectivement, c'est un gros travail, mais en même temps, c'est super intéressant et ça permet de se remettre sur le bon chemin si de temps en temps on a, enfin dévier, c'est un grand terme, mais si on s'est un peu trompé quoi.
Je suppose que lors de votre AG du 25, les conclusions de cette enquête vous serviront pour valider vos
prochaines actions. Oui, alors en fait, dans le processus, il y a justement, c'est une assemblée générale extraordinaire, puisque l'ordinaire, elle a eu lieu au mois de juin, mais c'est bien une assemblée générale de validation du projet social. Donc ce soir-là, c'est mardi 25 à 18h, hein, je crois, à partir de 18h au Palais Social, à la salle communautaire, on va présenter le projet et les grandes orientations, et donc ça sera validé par l'Assemblée des membres de l'espace social.
Deux questions. Est-ce que, premièrement, l'agrément pourrait être refusé par la CAF? Et deuxième question, est-ce qu'il pourrait s'envisager que les conclusions de votre enquête ne soient pas validées par les membres qui ont le droit de vote?
Non, alors déjà, refus de l'agrément par la CAF, en général, quand même, pour se faire refuser un agrément pour un centre social, il faut quand même y aller un petit peu fort, quand même. D'autant plus que, justement, pour éviter ça, la CAF est présente tout le long du processus. Donc, on a eu, dans le processus de renouvellement, il y a ce qu'on appelle la mise sur pied d'un comité de concertation avec les principaux partenaires du territoire. Alors, cette fois-ci, ce que je disais tout à l'heure, les maires du DIWA, la communauté de communes, le conseil général, la CAF en particulier. Et donc, ce comité se voit 3 ou 4 fois dans l'année avant l'écriture structure du projet social. Donc on valide bien au fur et à mesure. On valide d'abord le diagnostic précédent. Donc du projet social, et on valide les grandes orientations. Donc on peut pas arriver tout d'un coup avec des partenaires qui découvriraient qu'on s'est complètement trompé, c'est pas possible, dans la mesure où on reste bien collé à notre territoire. Et je dirais là, on va faire un petit peu de satisfaction. On est plutôt bien noté comme centre social dans les centres sociaux, on est plutôt bien noté et plutôt comme un exemple de centre social qui fait un renouvellement de projet structuré quand même. Donc là-dessus, on a aucune crainte, on est très très bien suivi par nos partenaires. Bon, mais de temps en temps, faut se faire un peu plaisir quand même quand ça c'est vu. Justifié.
Vous m'envoyez rassurer, je suis tellement d'accord avec vous, faisons-nous plaisir.
Et après, sur la question de valider ou pas le diagnostic en soi n'a pas vraiment à être validé. En fait, les résultats de l'enquête, donc de ce diagnostic, ont été présentés. Il y a eu 4 réunions publiques qui ont été faites, donc une sur chacun des cantons, pour présenter du coup toute cette matière qui est sortie de ces enquêtes. Et à partir de ça, de l'évaluation du projet social précédent, du cahier des charges de la CAF qui nous impose certains secteurs ou certaines entrées, et du coup, la matière qui est sortie de ce diagnostic, on a travaillé adhérents, bénévoles, salariés autour de grandes orientations, autour d'axes déclinés des objectifs. Et c'est ça qui va être du coup mis sous proposition au vote pendant l'AG. Donc, c'est ces grandes orientations et du coup, déclinées en quelques objectifs larges, pas opérationnels directement. Enfin, on n'est pas à une technicité très importante.
Eh bien, Pascal Caron et Charlotte Feldman, merci d'être passés à la radio pour nous faire part de ces événements importants dans la vie de l'ESCDD, qui est effectivement un équipement structurant dans la vie publique du Diwa. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.